Après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance
avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence.
Grâce à l'orque n'henni manik, il l'a ouarum d'être voté. Grâce à l'amour n'tem chaltik, qu'on laisse de les conférences. Qu'on laisse de les conférences pour étudier tous les sens.
Le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages. C'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France. C'est la raison d'espérance.
Les migrants se rebellent. Il y a
de la chance.
Au carnest il y a de la chance.
Mais c'est de la résidence. Les conversations, le chômage, l'immigration. Et après les élections,
on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce.
Chaque fois ça recommence.
Echaïla yagen shkour, fit moultes izam l'amour. Mais il a izmen safar,
azran la différence.
Azran la différence. La résidence.
Quand il est dur, c'est pour les migrés bien sûr. Avec la conscience pure,
dévouement et des souffrances. Dévouement et des souffrances,
ça mérite la récompense.
Il faut subir les conséquences.
Il faut subir les conséquences, il n'y aura plus de ruminance.
Et tout ça me fera du bien
de retourner chez les miens. Je suis un Africain. Le soleil en permanence.
Le soleil en permanence.
Le soleil en permanence. Pour moi ça de l'importance.
C'est ta droite de l'aïté. Je t'écoute ta moule de sferji. Je rappelle des filles de sferji. J'ai de mener un riche d'avance. Et de mener un riche d'avance. Jusqu'à la fin de l'existence.
Mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France.
Ont combattu pour la France,
bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France.
Bien avant la résidence.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediffusion.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle expérimentation radiophonique qui nous emmène aujourd'hui sur le festival Ça sonne à la porte pour la deuxième journée. Le festival s'est super bien passé hier, hein, c'était la grande classe, on s'est bien amusé, on a profité du spectacle, nous avons bien ri et nous avons vu sur scène la programmation. C'était, je vous le rappelle, Annabella Hawke, Trix, Triggerfinger, Iso, Fitzroy, Yami, Et au Cross, Julien Granel et Mintone qui se sont succédés sur scène. Aujourd'hui, une programmation tout aussi impressionnante, mais beaucoup plus longue, à savoir le Captain Parade, Dominique Février, James Baker, Vera Daisy, Shame, James Grunts, hop là, Jack Garratt, Follies, Deluxe, The Deep, Michel Hubert, et nous terminerons avec notre Didier Deuze à nous, en fait. Mais il sera pour vous aussi ce soir, et ça, c'est une bonne nouvelle. On est dans le vent, parce qu'on est comme ça, nous, et on aime bien. On est dans le vent, et vous pouvez venir nous rejoindre, bien entendu, sur ce gros conteneur avec le Ça sonne à la porte juste au-dessus indiqué. Pour Radio Propulser cette émission jusqu'à vos oreilles, c'est encore une équipe de choc qui s'y est collée, à savoir l'ami Jean-Jean qui écrit ses interviews sur un piano. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Notre ami Florence qui a été faire le tour du site et qui a récupéré aussi des rendez-vous auprès des associations. Nous avons l'ami Philippe qui fait du reportage comme personne, l'ami Damien qui aura des questions essentielles. À la technique, on a l'ami Guise qui gère tout ça. Et puis on a l'ami Antoine au micro et à la technique. Vous l'aurez compris, qu'est-ce qui se passe ?
La traduction aussi.
Ah oui, la traduction, pardon, Sandra. Bah, moi j'y connais rien en anglais. On aura Sandra également à la traduction. Et ça, moi, ça m'arrange carrément bien. Vous l'aurez compris, on est parti pour une après-midi, soirée de folie. On est au festival Ça sonne à la porte et on a bien fait d'y être.
Principe actif, le mix des cultures.
Et pour commencer les rencontres, les échanges et les interviews, nous recevons James Baker avec nous. Bonjour James.
Bonjour.
Il nous propose une introspection musicale sur scène, une mélancolie assumée sur le plateau. On aura l'occasion de le découvrir. Moi, je voulais commencer tout de suite par cette ambiance que je qualifie, alors tu as le droit de me contester, bien entendu, hein, d'une espèce de pop-rock mélancolique qui mêle déni, amour, dépression, des choses comme ça. C'est l'univers dans lequel tu navigues ou pas? T'as le droit de me contester autant que tu veux.
Carrément, carrément. C'est à peu près ça, je dirais. Même si sur scène, je trouve que l'énergie, elle est comme tu dis, rock, pop rock, et pas forcément mélancolique, justement, et un truc de positif. Effectivement, dans le ressenti, à l'écoute sur les morceaux, etc., ça peut être un peu mélancolique, nostalgique, tout ça, quoi.
Il y a un truc dans la voix et dans la façon de la poser quand même qui vient se mettre un peu en contradiction, ou en tout cas en opposition avec la partie musicale. C'est la ligne artistique, ça?
Je me suis jamais posé cette question. En fait, je pense que c'est assez naturel. Donc moi, comme je compose mes morceaux, j'ai tout de suite l'idée d'un mood et de paroles qui viennent dessus. Donc ma voix, elle se pose assez naturellement. Mais je sais pas si je fais exprès de faire un peu une dissonance entre ce que j'écris, ce que je chante et comment je le chante.
Il y a une façon, ça se répond. Moi, je trouve qu'il y a, enfin, ça se répond. En tout cas, ça vient s'opposer parfois, ce qui donne de l'ouverture sur la proposition artistique, bien entendu. Antoine, t'interviens quand tu veux, hein, tu me dis.
Oui.
Hein, parce que t'as plein de questions, mais si tu me laisses faire, je te laisse à la ligne de départ. Hein.
Non, pas de soucis, ouais, j'ai plein de questions. Justement, on en parlait de cette mélancolie dans tes morceaux, dans tous tes albums depuis quelques années qu'on te connaît. Quelle est la part de réalité? Est-ce qu'il y a une part romancée un peu? Enfin, à quel point t'es vraiment mélancolique dans ta vie perso?
Je sais pas à quel. En fait, moi j'aime beaucoup. Je suis passionné par le cinéma, donc j'imagine des histoires. Qui sont pas forcément réelles, mais je m'inspire d'émotions en tout cas qui sont réelles, ou même de situations parfois qui le sont aussi. Donc je saurais pas jauger la part de réalité et non réalité, mais à vrai dire, ça sort de moi de façon assez sincère. Donc il y a presque un truc où, mis à part sur des détails, c'est presque à 100% vrai. Mis à part quand je parle d'un contexte, par exemple, où le contexte peut être faux, tu vois.
Ok. Sur cette notion justement cinématographique, c'est une façon d'aborder la musique comme raconter une histoire, comme on pourrait raconter un film. Ce goût cinématographique, il est lié à quoi? À une passion du plus jeune âge des films, à des études dans le cinéma, à ce goût de la réalisation, peut-être même au passage à l'acte de réalisation cinématographique.
Possiblement, je l'espère en tout cas. Ouais, moi je suis passionné par le cinéma depuis tout petit. Moi je voulais être réalisateur en fait. J'étais passionné par la musique, je faisais de la musique à côté, mais moi, mon objectif, c'était de faire du cinéma. Et comme j'étais jeune et que j'avais envie de tout de suite mettre le pied dans des milieux un peu plus professionnels, j'avais plus accès facilement à l'industrie de la musique en ayant un ordinateur, en sachant un peu composer, en ayant un micro, etc. Donc je me suis lancé là-dedans et c'est devenu mon activité principale, voilà, en attendant de potentiellement faire du cinéma.
Ah oui, il y a vraiment ce double truc, quoi. Ouais, le clip est pile poil l'entre deux, non?
Ouais, ouais,
c'est ça, clairement.
C'est...
Hein.
Mais en vrai, c'est deux arts qui cohabitent en soi. Le cinéma a besoin de musique et la musique a besoin d'image, donc ça marche ensemble, donc c'est cool.
De toute façon, dans le cinéma, sans la musique, il y aurait pas ces portées émotionnelles, il y aurait pas ces tensions dans des moments clés des films. C'est intimement lié, la musique et les films.
Totalement.
Bien entendu. C'est parce que tout ça, c'est de l'émotion finalement qu'on pose comme ça. On le disait, tu es auteur, compositeur, interprète, en fait, en pleine maîtrise du projet total. Est-ce qu'il y a un regard extérieur qui vient se poser sur ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un besoin d'interaction extérieure?
Ah bah oui, c'est toujours, bah, que ce soit la famille, les amis, les proches. Et même au final, maintenant, je travaille, je compose tout seul, j'écris tout seul, mais ça passe aussi entre les mains d'autres compositeurs, etc. Parce que j'aime partager ce truc et aller aussi un peu plus loin. J'ai besoin de faire évoluer les morceaux, de les comprendre aussi. Et ça passe par quelqu'un qui teste quelque chose et que j'aime ou que je n'aime pas, en fait. Ça me permet de juste acter des choses et c'est un processus, quoi. Ça prend du temps et du coup, bah, carrément.
D'ailleurs, t'as dit que tu composais tout seul. Comment t'as appris la musique? Comment t'y es venu justement? T'es autodidacte, il me semble.
Ouais, moi j'ai pris des cours de piano depuis que j'ai 6 ans. Voilà, donc ça c'était juste la partie un peu formation musicale. Et à partir du moment où j'ai eu mon premier ordinateur, bah, j'ai eu mon logiciel MAO, quoi.
Ouais.
Et à partir de là, j'ai commencé à utiliser les samples. Ensuite, j'ai commencé à composer des mélodies tout seul.
Okay.
Et ensuite à poser des voix dessus, etc. etc. quoi.
Et c'est comme ça que tu as construit ton univers et que t'en es venu à ce style assez éclectique. Enfin, c'est vraiment ta patte à toi, quoi.
Bah ouais, ouais, écoute, j'ai l'impression de commencer à me trouver moi juste maintenant, tu vois. J'ai galéré à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment, non pas que ce que je faisais avant ne me plaisait pas, mais j'ai dû justement tester plein de trucs, ce qui donne un peu cette vision éclectique. Maintenant j'ai l'impression de me positionner vraiment sur une scène un peu plus indie rock, indie pop, quoi, mais avec des influences toujours électroniques, un peu de partout, c'est sûr, mais quand même un peu plus positionné qu'avant, où justement ça partait un peu plus dans tous les sens.
Ok. Moi, je viens de comprendre un truc, en fait. Ça y est, on parlait de mélancolie, de choses comme ça. J'ai trouvé d'où ça vient. En fait, découverte du logiciel de MAO et expérimentation, c'est un manque de sommeil assuré, ça. Ça vient de là, hein. C'est nuits entières sur la machine.
Ouais,
ou pas?
Ouais, je pense qu'il me manque quelques nuits.
C'est obligatoire, ça vient de là. Non, parce que forcément, la MAO, quand on la découvre et quand on. C'est tellement des possibilités infinies qu'en fait, même, c'est un coup à jamais finir un morceau, ça.
Bah ouais. C'est clair. C'est un peu le problème de ma vie, en vrai. Surtout en ce moment.
C'est obligé. Enfin, la MAO permet des possibilités infinies, qu'on se le dise. À quel moment, justement, tu dis le morceau est prêt? Parce que ça, c'est un vrai enjeu. En fait, là, le morceau est prêt.
Il y a deux choses un peu dans cette question. Je pense qu'il y a aussi le fait de terminer les morceaux, d'avancer dessus. Parce que moi, j'ai tendance à faire beaucoup de maquettes et de faire un couplet, un refrain et de jamais les finir. Justement, il y a un peu ce truc d'autodiscipline à partir du moment où je suis à peu près sûr qu'il va sortir, ou alors à 80% et qu'il est en compétition avec un autre morceau, par exemple. Par contre, à partir de ce moment-là, c'est sûr que c'est compliqué de se dire « Ah, là, il est prêt, là, il manque rien. » Il manque toujours quelque chose. En fait, on peut toujours rajouter quelque chose, on peut toujours enlever quelque chose, on peut toujours faire avec quatre accords pareil, on peut faire de la country comme on peut faire de l'électro. Donc, en fait, on peut tout changer sur un morceau qui est fini. Maintenant, je pense que c'est une question de. Enfin, à un moment donné, il faut lâcher le bébé, quoi. C'est un truc de
fini.
C'est ça,
mais c'est le moment où il va être lâché, il n'est pas simple à trouver, quoi.
Non, mais il se trouve. Il se trouve.
Ouais, ça va. C'est des choses qui s'apprennent, ça, justement, à finir les morceaux.
Ouais.
Sur l'expérience. Non, mais c'est une vraie question de est-ce qu'au bout d'un moment, il y a
des choses qui se désapprennent aussi, je pense. Moi, j'avais plus tendance à finir mes morceaux avant que maintenant.
Ah ouais.
Ouais.
Ah mais il y a plein de trucs sur le feu.
Ouais, c'est ça.
Il y a alors petite indiscrétion, il y a beaucoup de trucs sur le feu là, des trucs qui sont pas finis ou qui sont en voie d'être finis ou des trucs qui seront pas finis peut-être.
Ouais, surtout ça, je pense. Moi j'ai tendance à faire énormément de maquettes comme je disais. Là je suis en train d'expérimenter des choses pour la suite de mon projet. Je dois avoir 150 ou 200 maquettes déjà en cours, mais sur ces 150, je pense qu'il y en a une ou deux qui sortiront quoi. Même pas, peut-être. Je sais pas, je continue.
Et il te reste beaucoup de maquettes justement de ton projet qui est sorti au début de l'année.
Ouais, carrément, j'en ai plein.
Tu les gardes pour une éventuelle réédition ou
Je sais pas.
Parce qu'on peut pas les jeter. On peut pas les jeter tout simplement.
Non, je les garde, c'est sûr. Et parfois je les réécoute et je me dis ah dommage, en vrai c'était cool, mais en vrai j'ai toujours besoin de nouveautés. Et du coup je passe à la suite et j'arrive pas à revenir dessus en général.
Il n'y a pas de recyclage de se dire ça, je garde tel truc de telle partie.
Ça m'arrive, si ça peut plus arriver. Pour les textes que pour la musique en soi. Je récupère des textes de morceaux que j'ai écrits et que je mets sur des morceaux qui sont qui sont en cours d'écriture.
Sur la partie visuelle, clipage, visuel même, et identité visuelle aussi, hein, comment ça fonctionne chez James Baker ?
Alors moi je suis en collaboration totale avec mon meilleur ami qui s'appelle Simon et qui lui est réalisateur du coup. Et avec qui je suis en colocation, donc c'est pratique pour travailler ensemble. Et du coup voilà, on fait tout ça tous les deux. Donc c'est un travail de partage quoi. Il a sa vision, j'ai la mienne et on essaye de collaborer ensemble et de mélanger un peu tout ça et de faire un truc qui nous plaît à tous les deux quoi.
Non, pardon, Antoine, je crois que tu avais un réflexe de micro.
Non, même pas. J'acquiesçais de la réponse, mais c'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis.
Sur les... Aujourd'hui, t'es encore seul sur ce projet, en auto... Est-ce que... Enfin, en auto-décision, en auto-gestion, en auto-production de ce que tu... de ton travail, est-ce que ça donne des envies de collaborer au-delà de l'aspect visuel, mais sur la partie musicale, artistique?
Ouais, carrément. En vrai, je suis pas contre. J'ai beaucoup de mal à travailler en fait avec d'autres gens en direct. Moi j'ai besoin d'envoyer un morceau, que la personne tente de son côté, qu'elle me le renvoie, etc., etc. C'est comme ça que je fonctionne. Ça veut pas dire que ça sera pour toujours comme ça, mais en tout cas pour l'instant ça l'est. Mais ça arrive déjà justement, j'aime bien partager ce genre de choses et faire ça. Mais il faut trouver les bonnes personnes quoi. Parce que ouais, il y a ce truc de un peu rigide aussi, de perfectionniste que j'essaye de lâcher et qui est important parce que quand on travaille avec quelqu'un, on accepte aussi que il mette un peu de lui-même dans cette musique ou dans ce produit ou peu importe. Ce que j'ai un peu de mal à faire souvent, mais que justement je travaille.
Et du coup, tu disais que t'as du mal à travailler avec les gens, mais est-ce que t'arrives quand même à déléguer un peu certaines prods de tes morceaux ou tu fais vraiment toujours tout seul?
Non, pas jusqu'au bout. Moi, j'ai tendance à faire une grosse partie de la composition et de l'arrangement. Et ensuite, je travaille avec un mec qui est aujourd'hui un de mes très bons amis, qui s'appelle Charles Dollet, qui fait en fait la partie de réal arrangement par-dessus ma vision, etc., qui vient rajouter des mélos. Moi, je suis nul à la basse, donc il recoupe les basses beaucoup mieux. Pardon. Il rejoue les basses beaucoup mieux que moi, avec beaucoup plus de groove. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un peu entre nous.
Ouais, c'est ça, la composition a été faite et l'interprétation peut être revue.
Carrément.
Sur les accompagnements type résidence ou autre, c'est des choses que tu pratiques par les salles de diffusion, enfin par les salles de musique actuelle ou par les lieux de résidence artistique, c'est un
très
truc...
Non, ouais, non, c'est pas quelque chose que je pratique. J'ai les seules résidences que j'ai faites, c'était plus pour développer justement des projets qui concernaient mon projet artistique. Mais je suis pas du tout contre. J'ai pas forcément eu des occasions j'ai pas vraiment eu d'occasion en soi, tout simplement. Je me suis pas posé la question si c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Si j'avais l'occasion, peut-être que je me poserais la question, mais je suis pas contre, je suis pas pour non plus. À voir.
Aujourd'hui, tu joues aux alentours de 17h15 sur la scène de Ça sonne à la porte. Des choses particulières par rapport à ce passage scénique, des attentes, une pression, des surprises, comment ça va s'aborder?
Bah écoutez, franchement je suis assez chill, il fait beau, alors que bon, on a eu un mauvais temps un peu cette semaine, donc c'est cool, le site est trop cool, je suis venu avec des potes, on passe un bon moment. Non, franchement je suis trop content de jouer, j'ai hâte en vrai.
Bon bah parfait.
Et tu profites des concerts un petit peu?
Bah carrément, on va aller voir Shame juste après mon passage, parce qu'on aime bien. non.
Tu passes que la journée ou on peut te retrouver tout le week-end, enfin...
Non, on rentre ce soir.
Ok, super. Eh bien, merci beaucoup à toi, James Baker,
d'être
passé par nos micros, d'avoir échangé sur ta façon de travailler. Je propose qu'on écoute le morceau Distancer, c'est comme ça qu'on dit, hein, parce que je suis très nul en anglais.
Ouais, distancé, hein.
Ouais. Ah, distancé. Pour une fois que j'avais un accent anglais. Ah non, mais là, c'est terrible. Hein. Pour une fois que j'avais un accent anglais, eh ben non, c'est en français. Bon, bah, Distancé de James Baker. On écoute ça en sortie. Merci à toi d'être passé par nos
micros. Merci à vous.
Écoutez Principe Actif en direct du festival Ça sonne à la porte à Grosseuvre. On vient d'écouter James Baker avec Distancé.
Ce qui est bien avec un physique comme le vôtre, c'est que vous n'allez pas faire attention à votre ligne.
Un physique comme le mien ?
Ben, un physique de radio.
Ah oui, je me disais bien aussi.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Nous sommes toujours en direct, en live et en public à l'occasion du festival Ça sonne à la porte. Et je ne sais même pas pourquoi vous écoutez la radio. Venez, c'est là que ça se passe. L'entrée est gratos, donc c'est forcément dans vos prix. L'occasion pour nous de retrouver sur scène donc là c'est Captain Parade encore qui est en train de jouer. Il y aura Dominique Février, James Baker, Vera Daisy qu'on retrouve dans un instant à nos micros, Shame, James Grunts, Jack Garratt, Follies, Deluxe, The Deep, Michel Hubert et
des Didier Deuze, notre Didier Deuze à nous, que nous retrouverons pour clore cette journée. Nous avons avec nous Vera Desi, pardon, Margot, bonjour. Comment ça va pour toi?
Bah écoute, ça va. Quel temps, il fait beau, c'est un plaisir d'être là.
Mais carrément, on est bien.
On est trop bien.
Exactement. Margot, projet Vera Desi, qui est un projet, j'ai envie de dire, qui sonne un petit peu avec des tonalités d'années 90 sur la sonorité, tu me dis quand je dis des bêtises.
Oui, complètement, je hoche la tête, c'est pas radiophonique, mais oui, t'as raison.
Voilà, et je voulais d'abord complimenter ta tenue, je l'ai fait quand t'es arrivée, les auditeurs ne le voient pas, c'est dommage, on fait de la radio ultra colorée, joyeuse, et ça, ça fait plaisir.
Bah, merci beaucoup.
Alors, je me demandais si le Vera, il y avait un lien avec l'équipe de Scooby-Doo.
Tout à fait.
C'est ça.
Oui, mais tu l'as eu. Bah ouais. Non, mais trop fan de ce personnage, et puis en fait, j'ai choisi un nom de scène un peu à mon image. J'aime bien les dessins animés, j'aime bien les années 90, j'aime bien les trucs un peu colorés. Je trouve que Scooby-Doo, en termes de couleurs, ils sont quand même une belle équipe, quoi.
Et puis Vera, c'était la plus cool, parce qu'il y en a qui se la pétaient dans l'équipe.
Oui, c'est vrai.
Daphné, elle est quand même un peu, elle se la pète.
Franchement, ça va. Je crois que ça va. Le pire, c'est Fred.
Fred, il est horrible.
Fred, c'est le pire.
Horrible.
Mais
il est horrible.
On l'aime quand même.
Mais voilà. Moi, mes préférés, c'était Vera et Samy.
Ouais, Samy. Bah, Samy, le loser par excellence, mais on l'aime aussi.
Ouais, mais avec panache. Et ça, c'est important d'avoir du panache dans la loose.
Ouais.
Alors, Vera Desi, pardon, on est en train de.
Oui, on dit vague, mais c'est OK.
Ouais, mais ça fait partie de te découvrir, j'ai envie de te dire, Margot. Margot, tu proposes un rock, je trouve, joyeux, mélodique et coloré, je viens de le dire. C'est vraiment dans Jula que tu t'exprimes au mieux, c'est ça l'idée, c'est la ligne artistique, j'ai l'impression quand même de ce rock joyeux et lumineux, enfin quelque chose de...
Ouais, après, c'est pas que ça, mais je trouve que j'aime bien dire que j'appartiens à cette scène rock qui cherche à sortir des clichés rock qu'on a pu connaître et voir ces dernières années, enfin ça fait un moment, mais
non,
voilà,
mais il y a un stéréotype
du vieux rocker, voilà, qui se drogue, qui, enfin tu vois, bon, bref, et moi j'aime bien me dire que il existe aussi un rock bienveillant qui prône des valeurs hyper cool et inclusif, féministe, intersectionnel, tout ça, et voilà quoi.
Bon, en trois mots, en trois phrases, on vient de parler de militantisme, hein, on va se le dire. On est assez sensible à toutes ces questions là quand même. C'est important pour toi que, en tant qu'artiste, tu viennes poser aussi certaines valeurs, certaines valeurs tout simplement, et certains combats aussi sur scène.
Oui, carrément. Je trouve que dans mes chansons, par exemple, ça peut ne pas trop se ressentir, mais quand on est artiste, pour moi, je pense qu'on est obligé d'être politisé, engagé, et quand on est une femme encore plus, quand on monte sur scène, quand on joue de la guitare, c'est hyper important d'être consciente de ce qu'on fait et de ce qu'on peut apporter. On peut donner envie à des jeunes filles de se lancer. On est un peu comme des modèles, qu'on le veuille ou non, et du coup, moi, je trouve que c'est aussi une belle partie de la musique et de l'art en général, c'est qu'on a une voix politique à apporter, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est la conscience d'avoir une voix politique dans le travail artistique.
On transmet des messages, on transmet des émotions, et en fait, sans politique, sans subvention, par exemple, il n'y a plus de concerts, tu vois, c'est compliqué. Donc on est obligé de se politiser, quoi. Je me répète, mais voilà.
Oui, non, mais on ne va surtout pas t'arrêter sur ce terrain-là. Justement, aujourd'hui, on est sur un festival gratuit qui tient sa gratuité contre vents et marées parfois. Ça fait partie de l'âme de ce festival. Ce qui permet d'avoir un public familial, ce qui permet, parce que quand on sort à 4 ou 5 membres de la famille sur un festival payant, tout de suite, c'est un budget à anticiper. Sur un festival gratuit, c'est hyper important. Ça permet d'avoir des poussettes, des gens qui découvrent et qui aussi découvrent les artistes qui vont se produire sur scène. J'imagine que tu es sensible aussi à cette question d'accès à tous,
pour tous,
à la culture.
Ouais, complètement.
On parlait un petit peu de ce côté militant, je disais que c'était coloré, que c'était assez mélodique, mais il y a aussi quelque chose d'assez direct, en fait, dans ce rock que tu proposes. Il fait pas de détour, en fait. Il est direct,